Bonjour Julie.
Bonjour Lily.
Et 1, et 2, et 3, et 4. Alors on sait que 10% des humains sont gauchers. Mais ce qu'on sait moins, c'est que nos chiens aussi ont un membre fort qui peut en dire un peu plus sur eux. Alors gaucher ou droitier, ce n'est pas le cerveau qui décide et c'est plus compliqué à le savoir quand il est question de nos chiens.
Et oui, les gauchers représentent quelque 10% de la population. Les explications les plus farfelues, parfois les plus culpabilisantes, ont été avancées pour expliquer cette différence. Mais les scientifiques formulent de nouvelles hypothèses justifiant cette particularité.
Tu es gauchère ou droitière ?
Moi, je suis gauchère. Et toi ?
Gauchère.
Ah ouais,
c'est parti des 10%.
Oui, toutes les deux, dis donc.
Alors, pourquoi certaines personnes sont-elles gauchères ? C'est une question que je me pose.
Et question subsidiaire, pourquoi il n'y a pas davantage. Et pourquoi il n'y en a pas davantage ? Eh bien, cette utilisation privilégiée de la main gauche ne concerne que 10% de la population selon une étude de 2011. Comme tout ce qui sortirait de la norme, les gauchers ont été contrariés, voire persécutés. Une hypothèse farfelue incriminait à une époque les mères dont le stress pendant la grossesse aurait conduit à cette particularité.
Je crois que je vais sortir du studio. Je crois que je vais te laisser finir enregistrer la chronique parce que moi, depuis que je sais toutes les bêtises qu'on dit sur les gauchers, tous les préjugés, tout ça, je me réconforte en me disant que les gauchers sont les plus intelligents et ont une âme artistique. Je veux rester dans cette croyance-là.
Mais attends, ça va peut-être être...
Encore mieux ?
Peut-être être encore mieux, tu sais pas ?
Encore mieux, vas-y, j'attends.
Alors, depuis les années 1980, la recherche a montré que le fait de naître gaucher ou droitier se jouait effectivement avant la naissance. Mais les mères, stressées ou pas, n'ont a priori rien à y voir. À partir de la 13e semaine de développement, les fœtus usent soit leur pouce droit, soit le gauche, a révélé l'imagerie médicale. L'explication de ce comportement inné a été recherchée dans les gènes des individus en rapport avec le développement différencié des hémisphères gauche et droit du cerveau. Mais une étude publiée dans la revue scientifique eLife donne une autre explication. La clé résiderait dans la colonne vertébrale. Dans un circuit de commande, les gestes matures, l'impulsion du mouvement volontaire part dans une zone du cerveau appelée le cortex moteur. Le signal est transmis à la moelle épinière, puis traduit de manière effective en mouvement. Mais les chercheurs ont découvert que dès la 8e semaine, la préférence du fœtus pour la gauche ou la droite s'affirme déjà. Sauf que le cortex et la moelle épinière ne sont pas encore reliés. Il paraît donc que le fœtus choisit une main préférée avant même que le cerveau ne soit à la manœuvre. Pour percer à jour ce processus, les chercheurs ont analysé l'expression des gènes dans la moelle épinière entre la 8e et la 12e semaine de grossesse.
Ils ont trouvé des différences significatives dans les segments gauche et droit de la moelle épinière qui contrôlent le mouvement des bras et les jambes. Ils ont conclu que la nature asymétrique de la moelle épinière pourrait être réduite à l'épigénétique ou comment les organismes sont affectés par les changements dans leur expression génétique plutôt que par leurs gènes eux-mêmes. Vas-y.
Dans le domaine de l'épigénétique qui... Cette phrase veut rien. Si on a longtemps pensé que cette latéralité était spécifique à l'homme, on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Les animaux aussi peuvent être droitiers ou gauchers. Et il semblerait même qu'il existe un lien entre leur latéralité et leur comportement. Ainsi, les animaux gauchers seraient plus sensibles au stress et à la peur, et les animaux droitiers, les chiens notamment, plus faciles à éduquer. Mais comment savoir quelle est la préférence d'un animal ? Pour un reptile, par exemple, on notera de quel côté il enroule sa queue. Pour un oiseau, on se concentrera sur le côté qu'il choisit pour éviter un obstacle. Pour un chat ou un chien, c'est tout aussi facile à déterminer. Il y a plusieurs façons de vérifier si votre toutou préfère sa patte gauche ou sa droite pour ses mouvements du quotidien.
Observez quelle patte votre chien utilise en premier dans ces quelques situations pour savoir si votre chien est droitier ou bien gaucher.
Lorsqu'il descend les marches d'un escalier, lorsqu'il court pour aller chercher un jouet que vous lancez, lorsqu'il cherche à attraper quelque chose avec la patte. Vous pouvez aussi noter quelle patte votre chien vous tend lorsque vous lui demandez. Mais ce n'est pas le test le plus fiable. Pourquoi ? Tout simplement, le chien a peut-être appris à vous tendre une patte plutôt que l'autre, selon votre préférence à vous, même si vous n'en avez pas conscience. Vous pouvez aussi pousser l'enquête jusqu'à mener des petites expériences. Déposez un morceau de scotch sur la truffe de votre chien ou un morceau de tissu sur sa tête et voyez quelle patte il utilise pour le retirer. Certains animaux, en revanche, semblent plutôt ambidextres et ils choisissent un côté en fonction de la tâche qu'ils effectuent. Ainsi, les chimpanzés ont été observés utilisant majoritairement leur main gauche pour les gestes demandant de la précision et leur main droite pour les gestes nécessitant de la force.
Malin! Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire plusieurs tests et de noter le nombre de fois que votre animal préfère sa patte droite ou gauche pour vous faire une idée de l'ampleur de la latéralité de votre chien. Mais comme chez les humains, le degré de la latéralité chez le chien dépend des individus. Ainsi, certains peuvent avoir une nette préférence pour le côté gauche et s'en servir pratiquement tout le temps, alors que d'autres alterneront davantage avec le côté droit. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte du corps de votre chien, je vous conseille de faire avec lui de la proprioception. Et Julie, tu vas nous expliquer ce que c'est.
Eh bien, moi je ne suis pas une grande spécialiste de cette pratique. Aussi, j'ai dégoté pour vous un article de Cynotopia. Je vais vous en citer quelques extraits.
La proprioception est la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps. Ce n'est pas de la musculation, les exercices qui permettent de l'améliorer vont mobiliser les parties du corps que le chien utilise sans trop y penser instantanément. Donc, on peut également renforcer ses aptitudes à l'aide de matériel instable, permettant au chien d'avoir plus de maîtrise sur son équilibre et sa coordination. Chose que je suis extrêmement mauvaise. C'est une excellente préparation au sport comme l'agility, le frisbee ou bien l'obérythmé. Mais pas seulement. Qu'est-ce que c'est l'obérythmé, Julie ?
L'obérythmé, c'est quand tu danses avec ton chien.
D'accord, ok.
Obéissance rythmée. Mais maintenant, ça s'appelle plutôt dog
c'est
dancing.
C'est pas le dog dancing ?
Exactement. Okay. Tous les chiens ne naissent pas égaux face à ce sixième sens qu'est la proprioception. Si leur vue et l'odorat ne changent guère d'individu en individu, la conscience des quatre membres peut varier du tout au rien. La proprioception se développe avec l'âge et au fur et à mesure du développement sensorio-moteur de l'individu. Le chiot aveugle et rampant apprendra doucement à se servir de ses pattes et petit à petit galopera avec aise. Il restera pâteau, tombera aisément et aura beaucoup de mal à gérer les changements de hauteur et de stabilité si l'éleveur ne l'a pas préparé. C'est pendant cette période de 4 à 12 semaines que le chien développera son système proprioceptif. On a tous déjà vécu ce genre de chien qui saute le moindre obstacle. J'ai pas compris. Ouais. Un chien qui a conscience de son corps fera plus attention à la flexion et l'extension de ses membres, principalement lors des sauts. Mais l'abord et la réception pourront gagner en propreté, en évitant des appels trop tôt et des réceptions déséquilibrées. De même, un chien habitué à gérer le poids de son corps sur des surfaces instables aura plus de facilité à se rattraper, éventuellement avant ou après une glissade, mais également en transférant son poids en avant, en arrière, à gauche ou à droite pour établir son équilibre.
Alors exactement comme il est conseillé à nos seniors de continuer à marcher afin de ne pas perdre en mobilité, les vieux chiens doivent continuer à se balader. Mais pas doucement, au bout d'une laisse courte, en s'économisant. Rien n'est plus vivifiant qu'une course dans les bois, lever les pattes pour enjamber tronc et racines, escalader une colline puis la dévaler à fond de train. Pour leurs chiens, être physique et mental, les chiens ont besoin d'exercices toute leur vie et des exercices de proprioception tout au long de leur vie permettront de limiter la perte d'amplitude de mouvement. Avec moins d'impact, ces exercices peuvent également participer au maintien de la masse musculaire qui a tendance à fondre passé 8 ans chez le chien, donc assez jeune quand même.
Ça dépend des chiens en fait. 8 ans, chez un grand chien, ça commence à être pas mal. Chez des chiens plus petits, c'est quasiment c'est la moitié de la vie.
Ouais, c'est ça.
Certes, tourner sur soi, autour de vous, d'un poteau mobilise le rachis, la colonne vertébrale et les mouvements d'abduction et d'abduction des membres, mais au naturel, le chien fait ses mouvements lorsqu'il tourne, fait demi-tour, contourne un objet. Avec un chiot, ces petits tours rigolos de dog dancing peuvent l'aider, mais pas beaucoup plus. Faire le slalom en huit, reculer entre les jambes, toucher une cible avec la patte sont rangés au même niveau. Oui, il mobilise le corps entier du chien, exactement comme une bonne balade.
Ça, c'est ma partie. Les exercices de proprioception se basent sur l'équilibre et donc le déséquilibre, chose où je suis très mauvaise. La coordination et bien sûr la perception, là encore, je suis très mauvaise. On peut apparenter la proprioception au yoga, des exercices lents, précis, qui visent surtout à gagner en souplesse et en stabilité. Et dès nous, certains muscles peuvent libérer des tensions et étirer certaines zones qui sont souvent douloureusement contractées. Si chez le chien, proprioception et musculation sont étroitement liés, ils n'en sont pourtant pas interchangeables. C'est la répétition des exercices et leur intensité qui transforme des exercices de proprioception en exercice de musculation.
Tu sais maintenant quoi faire si tu vois, t'es pas doué en proprioception, tu dois aller faire du yoga.
On utilise le même matériel et les mêmes exercices de base. Mais devine que j'en fais, hein.
Fais du yoga.
Ouais, j'ai 3 ans de yoga à mon actif et 15 ans de kinésithérapie avec équilibre et coordination.
Eh ben, écoute, tu vois, comme quoi les apprentissages, ça peut prendre du temps.
Et mon père, pour se moquer de moi, il dit t'as acheté des réflexes. Parce que je suis tellement mauvaise que t'en as acheté quoi. T'avais pas compris au début.
Pour la plupart des chiens, un coussin plat gonflé au maximum et transformé en soucoupe volante est une épreuve insurmontable.
Ah oui, ils stressent. Même pour moi.
Mais c'est ça, ils stressent, se crispent. Et s'ils arrivent à tenir, c'est sans joie au prix de gros efforts. Plantez donc la pompe dans votre coussin plissé tant qu'il est surgonflé. Videz autant d'air possible qu'il faudra pour l'aplatir. Le gonflage ne rendra pas plus doué et plus vite. En fait, c'est tout juste le contraire. Allez-y doucement.
Ah bon ?
Rien ne vaut une bonne balade en forêt. À travers leur coussinet, les chiens apprennent à analyser le terrain sous leurs pattes. Est-il sec, humide, en pente, glissant, rocailleux ? Ainsi, les récepteurs dans les coussinets envoient quantité de messages au cerveau qui adaptera la position du corps pour éviter les chutes. Lever les pattes pour enjamber les branches, éviter un arbre lors d'un sprint, négocier les montées et les pentes raides, maintenir l'allure sur un terrain collant ou glissant, s'enfoncer dans le sable ou patauger dans l'eau. Tous présentent des avantages proprioceptifs qui ont l'avantage de ne pas coûter un centime. Quittez villes et champs pour des terrains compliqués. Apprenez à Médor à monter sur les souches, à bondir de pierre en pierre, faites-le marcher dans l'eau et profitez de ce que la nature vous offre.
Tous les Fifi, Milou, Loulou et autres Médor connaissent le fameux « donne la patte ». Parfois même, on leur apprend à donner l'autre qui devient le nouveau signal vocal. C'est très bien, mais on peut faire encore mieux en lui apprenant à lever les pattes postérieures également ou même à les donner. Ce trick sympathique présente beaucoup d'avantages si le mouvement est ample. En effet, pour les antérieures, on favorise une bonne extension de l'épaule et pour les pattes postérieures, c'est une extension de toutes les articulations qu'on met en place de la hanche à la cuisse en passant par le genou. Alors, en yoga.
Vas-y, c'est vas-y.
300 de yoga.
Parle-nous voilà. Du yoga.
Il existe 2 positions pour assouplir le dos, celle du chat et celle de la vache. Alors, celle du chat, on pourrait l'apparenter à dos rond, dos creux, et celle de la vache, je la connais pas bien. Mais en tout cas, elle consiste à se mettre à 4 pattes et à arrondir, puis creuser le dos. Comme beaucoup de choses, cet exercice peut aussi être transposé au chien. Ce mouvement l'aidera à étirer les muscles de son cou, de ses épaules et de sa colonne vertébrale en relâchant les tensions maintenues au niveau du bas du dos. Comme nous ne pouvons pas demander au chien de se combrer de son propre chef, nous pouvons l'aider en l'incitant à relever la tête avec une friandise, puis en la baissant entre ses pattes antérieures, ce qui peut s'apparenter à dos creux, dos rond. La position du chat, bien exécutée, relâchera les tensions maintenues sur le cou et les épaules, tout en augmentant la flexibilité de la colonne vertébrale. Celle de la vache, en creusant bien le dos, permettra de travailler au niveau du cou et des reins, en ayant également un impact sur la flexibilité de la colonne vertébrale.
Vous pouvez également faire des exercices avec du matériel spécialisé, comme mettre les pattes sur un coussin plat ou feed bone. Reculer sur un coussin plat ou feed bone, s'équilibrer sur 2 coussins plats ou feed bone. Il est préférable de travailler avec un matériel plus long que le chien. Bien sûr, il n'existe pas de coussin aussi long qu'un Golden Retriever. On peut donc aisément aligner 2 disques plats et hop, le problème est réglé. Les 4 pattes gèrent l'instabilité, Mais les membres sont verticaux, la tête est en position neutre et le dos reste bien plat. C'est sans doute moins impressionnant, mais les vertèbres cervicales et lombaires de Médor vous diront merci. Vous pouvez également travailler sur la cadence des Calivetti, les Cavaletti. Les Cavaletti sont des petits obstacles bas utilisés pour améliorer l'allure des chiens. Vous pouvez même poser des barres au sol. Enfin, pas seulement. Loin de servir à réguler la foulée et à entretenir la proprioception de votre chien, les Cavaletti ont mille usages cachés. Entre assouplissement et musculation, amélioration de la flexibilité et de la cadence sur le trot, les Cavaletti permettront de moduler la longueur de la foulée selon vos besoins, l'allonger pour l'agilité ou la raccourcir et la relever pour l'obéissance et les expositions. L'espacement entre les barres et leur hauteur ont une importance capitale, car elles s'adaptent à la morphologie du chien. Souvent, placées trop haut, les Cavaletti doivent se placer au maximum au jarret, jamais plus haut.
Cependant, certains exercices sont à éviter, comme faire le beau.
La règle de base est la suivante. Si votre chien ne sait pas s'asseoir, travaillez ça en premier. Et s'il sait mais il n'a aucun équilibre en faisant le beau, laissez tomber.
Les 80 temps à vol sont également à éviter.
Et oui, dérivé populaire de Four in a Box, cet petit exercice est souvent recommandé pour les chiots. Il permet de débuter le shaping et de les assouplir et sont destinés à l'agility. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a vendu. En réalité, il va à l'encontre même du principe fondamental de la pratique du fitness canin. Lors d'un exercice, la posture doit être égale ou meilleure à celle maintenue au sol.
Monter sur un ballon est aussi à proscrire.
Oui, gardez-vous-en, car il s'agit d'une version bien pire de 4 pattes dans un bol. Et 3, mais en plus, instable et glissant, le ballon se creusera sous le poids du chien qui, soutenu par son maître, aura bien du mal à trouver son équilibre.
Mettre les pattes sur une planche d'équilibre est aussi à proscrire, mais j'aimerais bien qu'on me proscrive ça aussi.
Eh bien, Elvire, claque, instable, impossible à maîtriser. La planche d'équilibre ronde n'a rien à faire dans votre sac de fitness. Utilisez-la pour vous, pas pour votre toutou. En virant de bord brutalement, elle crée des chocs dans ses membres et lui fait perdre l'équilibre. Quant à y mettre les quatre pattes, vous connaissez désormais la chanson. Mais cette fois, en plus de l'étroitesse du support et de son instabilité, ajoutez l'incapacité à de la contrôler et les oscillations vives. À ce jour, il n'existe aucun exercice adapté qui justifierait l'utilisation de cette planche bon marché. Eh bien, merci à Cynotopia pour tous ces conseils.
En bref, pour apprendre à votre chien à comprendre son corps, concentrez-vous sur des exercices simples au plus proche des mouvements naturels en visant l'assouplissement plutôt que de la musculation, voire les deux sont complémentaires. Mais vous pouvez retrouver donc ces conseils de proprioception et bien d'autres sur le site de Cynotopia.
C'est maintenant la fin de notre chronique. C'est maintenant la fin de notre chronique. Comme toujours, je termine avec une citation. Aujourd'hui, celle de Cynthia Emel. Les chiens agissent exactement comme nous agirions si nous n'avions aucune honte.
Les chiens agissent exactement comme nous agirions si nous avions aucune honte. J'ai toujours pas compris, mais je cherchais...
Ils vivent dans le moment présent. Ils ne s'encombrent pas de sentiments inutiles.
Oui.
Eh bien, ils agissent exactement comme si nous agirions si nous n'avions aucune honte.
Aucune honte. Bah, merci Julie pour cet éclairage.
Eh bien, écoute, toujours un plaisir.
Cette info au poil, cet éclairage à retrouver jeudi prochain, 8h30, même jour, même heure. En podcast sur www.radiofm43.org. Et puis, Julie, je le rappelle, tu es éducatrice comportementaliste canin. Si on veut plus d'informations sur toi et si on veut des éléments de contact, rendez-vous au studio DFM43 par le 04 71 59 05 65 ou sur notre site internet également. Merci Julie.
Merci Lily.